Je vous disais la dernière fois que la première dimension qu'il fallait essayer de comprendre au point de vue de la personne humaine, c'est cette première activité de son travail et l'activité artistique liée à ce travail. Alors là, on touche un problème très difficile, très délicat, savoir si l'homme peut être finalisé par l'art. Toute la question est là, au point de vue de la personne, vous comprenez, c'est de savoir si, de fait, le travail est nécessaire pour aider l'homme à se structurer. C'est ce que je vous disais la dernière fois, en montrant l'importance du travail qui va permettre à l'homme de se structurer. Autrement dit, le travail va permettre à l'homme de découvrir, dans l'ordre pratique, une certaine autonomie. Un homme qui ne travaille plus, au sens fort, qui ne travaille plus, qui se laisse aller, si vous voulez, à un dilettantisme, hein, parce qu'il faut quand même distinguer le travail et le dilettantisme, hein, parce qu'il y a des gens qui travaillent, soi-disant, ils sont occupés toute la journée, mais ils ne font rien. Ils sont occupés. Alors, c'est le dilettantisme, c'est pas du travail. Un travail est ordonné à une heure. Et le travail implique, justement, ce point de vue d'une application dans l'ordre de l'efficacité pour réaliser une œuvre. Ça, c'est le sérieux du travail. Et le sérieux du travail consiste, justement, à faire qu'il y ait une certaine lutte. Je crois que toujours le travail est dans la lutte. Une certaine lutte parce que il s'agit dominer la matière, de la transformer, et que la matière ne se laisse pas transformer uniquement par notre parole. Il y a Dieu qui fait que sa parole est efficace. Nous, ce sont nos mains. Et c'est nos mains qui sont efficaces, nos pieds, hein, ça dépend. Et puis aussi notre intelligence. Intelligence pratique dans l'œuvre artistique. C'est pas uniquement la main, parce qu'alors uniquement la main, il n'y aurait que le travail manuel. C'est le travail manuel qui est le travail pour nous, prototype du travail. Parce que c'est beaucoup plus difficile de discerner le dilettantisme dans l'art que de le discerner dans le travail manuel. Un travail manuel, ça se voit tout de suite. Tandis que dans l'art, c'est pas commode de discerner si on a affaire à un dilettante ou à un artiste. Beaucoup d'artistes aujourd'hui sont des dilettantes. Et ça, c'est très difficile à faire le discernement. C'est pour ça que c'est pas commode du tout. Et au point de vue intellectuel, c'est la même chose. Il y a un travail intellectuel. Il faut acquérir des mœurs intellectuelles du travail. Mais dans le travail intellectuel aussi, il y a un certain dilettantisme qui peut se mêler. Et c'est beaucoup plus difficile d'arriver à faire le discernement entre les deux. Et voyez, dans le dilettantisme, c'est le point de vue imaginaire qui l'emporte. Et alors à ce moment-là, on entretient son imaginaire par son dilettantisme et par son travail. Alors à ce moment-là, on reste dans une immanence de l'imaginaire et l'immanence du travail. Parce que je crois que c'est la différence entre les deux. Entre le dilettantisme et le travail. Parce que je crois que c'est là où il y a un discernement très important à faire au point de vue philosophique. Et vous voyez, on est là dans une philosophie pratique. Hein. Donc c'est notre vie. Un petit examen de conscience. Hein, chacun d'entre nous. Parce que c'est vrai que c'est là où on voit si notre personnalité se construit ou au contraire ne se construit pas. Comment se fait-il qu'il y a si peu de personnes sur lesquelles on peut compter? Parce que c'est ça la personne. C'est quelqu'un. Les individus sont très nombreux. Hein. Là, l'individu, le problème de l'individu et de la personne, ça vaut. Des individus, il y en a des quantités. sur les combien sur lesquels on peut compter. Or, justement, le propre d'une personne, c'est qu'elle porte la responsabilité de son travail et qu'elle est capable de porter cette responsabilité. Elle sait ce qu'elle est capable de faire. Elle sait ce qu'elle est capable de ne pas faire. Tandis qu'au contraire, si vous demandez quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de personnalité, qui ne sait pas ce que c'est, il dira oui, oui, oui. Puis, rien ne se fera. Parce qu'il n'a pas compris les capacités qu'il avait, ce qu'il était capable de faire ou pas faire. De temps en temps, on est obligé de faire des choses qui semblent nous dépasser. Mais alors, on les fait, ça c'est autre chose. On les fait dans l'obéissance. Alors, je ne dis pas que l'obéissance fait des miracles, n'est-ce pas? Mais l'obéissance fait que, de fait, on fait ce travail, on dit que je suis incompétent de le faire. Je ne sais pas, faites-le quand même. On vous mettra quelqu'un auprès de vous qui vous aidera pour... Alors, très bien, on est à ce moment-là, si vous voulez, manœuvre un certain temps. On est l'apprenti, le gars de sauce pendant un certain temps, dans tous les domaines. Et puis petit à petit, on acquiert une certaine autonomie dans son travail. Parce que je crois que le travail doit permettre d'éduquer cette autonomie. Qui fait que, en travaillant, il y a un réalisme qui demeure parce qu'il y a ce réalisme de la matière qu'on touche, qu'on atteint et qui se réalise dans l'œuvre. Tandis que dans le dilettantisme, il n'y a aucun réalisme parce qu'on reste dans le domaine imaginaire et on reste dans sa propre, c'est pas son idée, hein, l'image. On se flatte soi-même. Et donc, il n'y a pas d'œuvre. Et s'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'efficacité du travail. C'est là la difficulté. Une œuvre d'art, hein? Une œuvre d'art n'est une œuvre. Je ne dis pas quand elle est belle, parce que ça c'est un critère extrinsèque. Mais quand elle existe, une œuvre demande d'exister comme œuvre. C'est-à-dire d'être quelque chose qui se par elle-même. Autrement, ce n'est pas une œuvre. C'est difficile, hein, dans l'œuvre d'art, de bien discerner l'œuvre, parce que souvent, l'œuvre ne se manifestera que progressivement. Et c'est l'œuvre qui maintient le critère du réalisme. C'est pour ça que dans le travail intellectuel, vous voyez, c'est quand même bon de temps en temps de pouvoir écrire une part. Deux pages qui montrent qu'on fait quelque chose. Et dans un travail de recherche au point de vue, on ne sait pas très bien au bout d'un certain temps si on recherche. De temps en temps, il faut pouvoir faire ça. Il faut soi-même le faire. Et on peut toujours demander à quelqu'un, est-ce que c'est valable? Est-ce que ça touche quelque chose? Si on ne fait jamais cela, je crains beaucoup qu'on tombe dans un certain dilettantisme. Oui. Et il y a à tenir compte de ça, c'est important pour nous. Parce que nous essayons, hein, de développer notre personnalité, de développer notre personnalité dans le sens le plus fort. Or, le travail est sûrement la première manière de développer sa personnalité. D'émerger la personne. Dès que faire que l'esprit émerge la matière. Un travailleur dans le sens fort, dans n'importe quel métier, se reconnaît tout de suite. Parce qu'il a horreur du dilettantisme. Vous voyez, un artisan, c'est extraordinaire de voir ça. Parce que justement, il sait ce que c'est de réaliser une œuvre. Et il réalise une œuvre par son travail, par son métier, avec sa propre méthode, parce qu'un vrai travailleur arrive à avoir sa propre méthode de travail pour réaliser quelque chose. Au début, il emprunte la méthode des autres, c'est très bien. Et puis, progressivement, il réalise lui-même sa méthode. Alors, la grande question qui se pose, c'est de savoir si je peux dire qu'il y a une personne au niveau purement artistique. Au niveau du pur travail, manœuvre, c'est bien évident, non. C'est une ascèse qui fortifie. Et en fortifiant, elle donne une certaine autonomie. C'est en ce sens-là qu'un travail purement même de manœuvre, quand je manœuvre, vous voyez, faire la vaisselle, c'est un travail de manœuvre, faire la vaisselle, bien évident. Mettre les assiettes au réfectoire, c'est un travail de manœuvre. C'est pas très inventif. Hein. On vous dit exactement ce qu'il faut faire, vous n'avez qu'à l'appliquer. C'est un travail de manœuvre. C'est très bon. Il faut faire ça. Être capable de donner son temps et de faire le mieux possible. Parce que même un travail de manœuvre doit se faire qualitativement. Un manœuvre qui renverse les valises qu'on lui donne de porter à toutes les 5 minutes, il y a des chances que ça n'aille pas très vite. Alors le manœuvre qui doit mettre la table et qui casse toutes les assiettes ou ne voit même pas et oublie la cuillère ou le couteau, c'est un mauvais manœuvre, il n'est pas attentif. Donc on est attentif en étant manœuvre. Et on peut être un bon manœuvre qui fait quelque chose de bien. Le manœuvre, c'est un travail qu'on exécute. On exécute un travail dans n'importe quel sens. Et on peut être manœuvre même quand on fait un séminaire de philosophie et de théologie. Il y a des travaux de séminaire qui sont des travaux de manœuvre. On a de temps en temps envie de dire « bon travail de manœuvre ». Mais pas plus, ça n'a pas dépassé le niveau. Au point de vue intellectuel et au point de vue théologique, c'est un peu ennuyeux. Parce qu'il faut quand même, je sais très bien, que quelquefois on ne peut pas. Hein. On n'a pas assez de recul. Alors on fait un bon travail de manœuvre. On vous a dit de consulter tel livre, on vous a dit de consulter tel livre, vous avez fait une petite bibliographie pour vous regarder et vous assembler. Vous savez, c'est comme l'autre qui disait, une thèse, une bonne thèse, c'est le résumé de 100 livres. Ça veut dire le manœuvre qui prend 100 valises. Et puis qui regarde dedans et puis il fait un petit résumé de tout ça. Tout dépend s'il l'a assimilé ou pas. On ne demande pas aux manœuvres d'assimiler. On demande aux manœuvres d'accumuler. C'est pas la même chose. Alors il met une brique, une brique, une brique, une brique. Très bien. Il accumule un mur fait par un maçon qui a du métier de l'art. Ce n'est pas une accumulation. Il sait comment ça se fait. Mais le gâteau, c'est une accumulation. Une pierre. Ah tiens, puis tout d'un coup, quand il arrive à la dixième, ça dégringole. C'est curieux et l'autre, ça tient. Comment ça se fait ? Parce que d'un côté, il a accumulé, tout simplement, sans comprendre l'organisation interne. Il n'a pas assimilé. D'autre côté, il a assimilé. Comment se fait-il qu'un cuisinier, qui est un bon cuisinier, qui n'est pas seulement un gars de sauce, arrive à faire une œuvre d'art, même avec des choses, une œuvre d'art bonne à manger, hein ? Une œuvre d'art, c'est-à-dire un aliment vrai qui goûte, n'est-ce pas ? Tandis que de l'autre côté, non. C'est de la bouillie à chaud. Alors on met du sel pour empêcher de sentir que c'est de la bouillie de chaud. Tout simplement, mais c'est de la bouillie de chaud. On a envie de dire, on goûterait bien, servez ça des petits chats, mais quand même, on n'est pas des petits chats, n'est-ce pas ? Il faut quand même un tout petit peu veiller à faire que ce ne soit pas de la bouillie de chat. Vous voyez, le manœuvre, uniquement le manœuvre accumule. Quand on ne peut pas faire plus, on le sait. Mais là, il n'y a aucune qualité. C'est uniquement une exécution matérielle. C'est même pas du travail. C'est en dessous du travail. Parce que le travail doit être vital. C'est un vivant qui travaille. Et le travail doit faire que le vivant, en travaillant, fait que l'organisation du vivant se prolonge dans l'œuvre et implique cette assimilation. Alors à ce moment-là, vous avez un travail de manœuvre et pas seulement matériellement le manœuvre. Un travail de manœuvre peut être qualitatif. Il y a des manœuvres qui font ça très bien. parce qu'ils le font avec intelligence. C'est ça qu'on dira le faire avec intelligence. C'est l'assimilation intelligence. Alors, vous voyez tout ce qu'on devrait regarder là pour essayer de comprendre comment le travail équilibre. Un vrai travail équilibre, parce que ça maintient le contact avec le réel. Alors que si je travaille uniquement matériellement, ça n'équilibre plus, puisque c'est fait sans aucune assimilation. Donne son temps. Je donne mon temps. Je donne mon temps au bon Dieu. Oui, je donne mon temps au bon Dieu. Oui, c'est-à-dire que vous passez votre temps et puis c'est tout. Mais vous ne le faites pas avec intelligence. Vous le faites sans application. Vous ne cherchez pas à faire que ce travail soit un travail humain. Or, n'importe quel travail peut être fait humainement. Et donc, avec la noblesse du travail. Et en oublier. N'importe quel travail. Mais il faut, alors à ce moment-là, y réfléchir un peu. Et comprendre. Parce qu'un travail intellectuel peut être fait bêtement. Et un travail manuel, uniquement de manœuvre, peut être fait avec intelligence. C'est ça la très grosse difficulté. Vous pouvez faire des petits travaux intellectuels toute votre vie bêtement. Et vous accumulez la bêtise. N'est-ce pas ? Ce qui fait qu'il y a des intellectuels soi-disant qui travaillent intellectuellement et qui travaillent bêtement. Et ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite, c'est une accumulation matérielle, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'intelligent, parce que ce n'est pas assimilé. Ce n'est pas assimilé, ce n'est pas organique. Une œuvre vivante est organique, et une œuvre artistique est organique. Elle a une unité. Une unité parce que c'est assimilé. Alors, le travail équilibre. Le vrai travail équilibre, le travail qui aboutit à une œuvre, il équilibre. Le dilettantisme n'équilibre pas. Le travail fait purement matériellement n'équilibre pas. Et ça devient un dilettantisme matériel, une accumulation. Il n'y a pas de travail, on est en dehors. Ah oui, pendant tout le travail, j'ai pensé à autre chose. J'ai pensé à tout à fait autre chose. J'étais en dehors, donc je n'étais pas présent. C'est plus du travail. Le travail humain demande la présence. Alors, le travail équilibre, mais est-ce que le travail aboutit à faire le point de vue d'une personne ? Là, la grosse question, on y reviendra, hein, parce que je pose la question maintenant. Est-ce que le travail ennoblit par l'art, est-ce qu'il aboutit à faire une personne ? Y a-t-il une personne humaine au niveau poétique ? Au niveau sculpteur. C'est une très grave question, ça. Et une question qu'il faut se poser. Parce que c'est important de savoir si je peux finaliser ma vie. En définitive, ce sera ça. Est-ce que je peux finaliser ma vie par une œuvre artistique ? Ou est-ce que l'œuvre artistique ne finalise pas ma vie ? Il est bien évident que pour le manœuvre, ça ne finalise pas. C'est bien évident. Ça peut ennoblir, comme ça peut détruire. Mais une œuvre artistique, est-ce qu'une œuvre artistique, si au fond on a une qualité artistique de sculpteur, une qualité artistique de menuisier, une qualité artistique d'ébéniste, une qualité artistique de poète, est-ce que ça peut finaliser une vie ? Ou est-ce qu'au contraire, ça fait dévier. Quand Malraux dit que l'œuvre d'art est anti-destin, cette fameuse phrase de Malraux, elle est intéressante. Elle ne dit pas les finalités, elle ne dit pas qu'elle finalise anti-destin. Donc il montre que l'œuvre d'art, en tant qu'œuvre d'art, permet à l'homme de découvrir qu'il a une dimension spirituelle. C'est ce que je crois être vrai. C'est que l'œuvre d'art permet à l'homme de découvrir qu'il a une dimension spirituelle. C'est pour ça que l'art peut lutter d'une façon très efficace contre le positivisme scientifique. Le positivisme scientifique qui fait croire que l'homme est lié à la matière et que l'homme n'émerge pas de la matière, et que l'esprit est enfoui dans la matière et que seule la matière qui est visible et que mesurable est quelque chose de valable. L'art est anti-positivisme. Le véritable art, hein? Pas la pure efficacité du manœuvre, qui peut être entièrement positiviste. Mais une œuvre d'art qualitative est toujours anti-positivisme. Pourquoi? Parce qu'elle me fait comprendre comment l'esprit peut dépasser la matière. Il émerge. Il y a une qualité. C'est ça un travail qualitatif. Et c'est ça une œuvre d'art. Elle est qualitative. Toute œuvre d'art en tant qu'œuvre d'art est qualitative. Autrement, ce n'est plus une œuvre d'art. C'est une œuvre au sens fort. Et toute œuvre a une qualité. Elle existe. Elle exprime quelque chose. Elle dit quelque chose. Et elle dit quelque chose par elle-même. Bien, une œuvre qualitative nous permet à l'esprit d'émerger de la matière. Et en ce sens-là, on peut dire que l'œuvre d'art est anti-destin parce qu'elle permet à l'homme, à l'artiste, mais à l'homme, l'homme artiste, de découvrir qu'il a en lui un souffle spirituel. Donc, qu'il est au-delà de la matière. La découverte première de l'esprit se fait par l'art. C'est la première émergence de l'esprit dans l'œuvre d'art. L'œuvre d'art a ce privilège. Une œuvre d'art poétique, une œuvre d'art de sculpture, une œuvre d'art de peinture fait cette émergence. Et s'il y a cette émergence, il y a donc quelque chose qui permet de dépasser le positivisme. Donc, on pourrait dire de cette façon-là que l'œuvre d'art est la première émergence de l'esprit sur la matière. Si c'est la première émergence de l'esprit sur la matière, c'est donc à partir de l'œuvre d'art que je dépasse en premier lieu le conditionnement psychologique. Ça, c'est très vrai. Je crois que regarder un artiste, regarder un artiste, je suis déjà au-delà de ce que le psychologue peut dire quand il parle des sentiments du moi. Il y a quelque chose d'autre. Il y a une émergence de l'esprit qui dépasse le conditionnement. Et cette émergence de l'esprit qui dépasse le conditionnement, c'est donc déjà la personne humaine. Le saint ne construit pas une œuvre d'art. Tandis que le singe peut être satisfait de lui-même. S'il a mangé des bananes, il est satisfait de lui-même. Tu vois? Et c'est vrai, je vous regarde avec beaucoup d'un, je ne dis pas d'intelligence, mais il est satisfait. Surtout quand il l'a volé chez le voisin. Il est très satisfait. Il est très très content. Et il regardera sans sourire, parce qu'il ne sourit pas, mais avec des yeux malins, un regard malin, il est satisfait. Alors, c'est une autonomie assez particulière, qui, non pas son travail, vous voyez, qui est le fruit de son astuce. Il a volé. Au sens strict, il n'a pas travaillé, mais il a volé. L'œuvre d'art est propre à l'homme. L'œuvre d'art est propre à l'homme. L'animal ne réalise pas une œuvre d'art. Donc on pourrait dire que à travers l'œuvre d'art, l'homme manifeste le premier moment de sa personnalité. L'émergence de l'esprit au-delà de la matière, au-delà du conditionnement. Première chose. Alors ça, c'est très important de noter pour nous, au point de vue philosophique. C'est un premier moment d'émergence au point de vue psychologique. Ce serait peut-être, vous voyez, la grande manière pour nous de montrer que ce que dit le psychologue ne suffit pas. Un artiste et plus dans sa structure propre d'artiste, dans la conquête qu'il réalise, et plus que ce que Charles Audier dit de la personne. Des sentiments du moi. Alors, est-ce que je peux déjà parler de la personne ou est-ce que je dois parler d'autre chose ? On verra après, progressivement, mais il y a quelque chose qui est très très important, et de voir que chaque art va donner une certaine manifestation de cette émergence de l'esprit sur la matière. Là, nous devons essayer de comprendre comment le poète va nous mettre en présence cette émergence de l'esprit sur le langage. Le langage qui, pour la plupart des personnes, est un donné, pour le poète, n'est plus un donné. Puisqu'il a, il a repris la parole pour essayer de faire que la parole puisse manifester, dévoiler toutes ses virtualités. Et la reprise à sa source. Et donc, ce n'est plus au sens strict un donné. Quand on apprend une langue, la langue est un donné. Quand on est poète à l'intérieur de cette langue, parce qu'on est poète pour une langue, on n'est pas poète pour n'importe quelle langue, mais laissez au traducteur de faire ça, mais on est toujours poète. Un poète, il est génial dans sa langue. Et c'est dans sa langue qu'il est génial. Et quand on transpose après, on sait très bien que c'est très difficile de respecter le caractère génial qui s'est fait à l'intérieur d'une langue. Le poète a transformé le donné en une œuvre poétique, qui est son œuvre poétique. Et cette œuvre poétique est marquée de la force de son esprit. De son esprit au point de vue de l'intelligence, de son esprit au point de vue de l'amour. Et quelque chose de nouveau, quelque chose d'original et d'unique, qui n'est plus la langue commune. La langue commune, elle est pour tous. Elle est pour les philologues, elle est pour les grammariens. Tandis qu'au contraire, le poète, mais lui, quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'il est au-delà du philologue. Demandez à un poète ce qu'il pense de la manière dont un philologue regarde son œuvre. C'est très joli de voir ces réactions-là. Parce que justement, il dira spontanément que toute l'originalité de son œuvre n'est pas saisie. Le philologue ramène l'œuvre poétique à la langue commune. Son barème, c'est la langue commune. Et donc, ce qu'il y a de particulier, d'unique, dans l'œuvre d'art du poète, n'est pas saisi. Et là, on voit très bien le passage, hein, comment la science comme telle reste au niveau commun, universel. Alors que l'œuvre d'art donne une originalité à la matière. Donc, il faut se poser la question, le poète, au point de vue de la personne, nous nous plaçons de ce côté-là, le poète, qu'est-ce qu'il nous dit de la personne humaine ? Il nous montre comment le langage est personnel. Comment le langage doit exprimer quelque chose de personnel et non pas seulement quelque chose d'utilitaire. Que le langage est capable d'une signification qui n'est plus seulement commune, logique, utilitaire, que le langage a des virtualité unique. Des virtualités que le poète met en lumière. personne n'avait pensé avant. Il met en lumière cela. Il met en lumière le caractère personnel. Donc, du côté, vous voyez, quand je dis personnel, c'est du côté de l'intelligence liée à l'affectivité. Hein. Ce n'est pas uniquement l'intelligence. C'est l'intelligence liée à l'affectivité. C'est ça, l'esprit. Et il met ça en lumière, le sculpteur, par rapport à la personne. Qu'est-ce qu'il met en lumière? Il met en lumière que la matière, qu'il s'agisse du bois, qu'il s'agisse du marbre, qu'il s'agisse de la pierre, peu importe, que la matière demande d'être achevée par l'homme. C'est notre corps qui se prolonge dans la sculpture. Le corps humain va pouvoir s'expliciter, se dire à travers la sculpture. Quand il s'agit du peintre, il va nous faire comprendre ce point de vue de la lumière. Une lumière physique qui demande d'être prolongée par la lumière intérieure. C'est la lumière physique dont le poète, dont le peintre se sert pour exprimer que la vraie lumière est intérieure, que la lumière extérieure attend la lumière intérieure, que la lumière extérieure est une attente vis-à-vis de quelque chose de beaucoup plus intérieur. Au fond, quand vous regardez les différents arts et les différentes œuvres artistiques, vous voyez l'émergence de l'esprit à travers la matière, mais vous ne voyez pas plus. Pas plus. C'est déjà beaucoup. Et donc, par rapport au positivisme, c'est un premier salut. C'est une première libération de l'esprit. Et c'est la première libération de l'esprit, c'est pas plus. Pourquoi? Parce que l'œuvre d'art, même si elle glorifie l'artiste, l'œuvre d'art comme telle est le fruit de l'intelligence, de l'esprit de l'artiste. Donc, le résultat de sa recherche, de son inspiration, mais ça ne peut pas être son bien. L'artiste domine l'œuvre d'art, puisque l'œuvre d'art vient de lui. Donc ça ne peut pas être son bien au sens absolu. Alors ça, c'est très important au point de vue de la personne, au point de vue de l'explicitation de la personne, au point de vue de l'émergence de la personne. L'œuvre d'art ne peut pas développer dans l'homme ce qu'il y a de plus précieux. Ça développe un certain domaine de valeur, mais ça reste une attente. Toute œuvre d'art demeure une attente pour l'homme. Ce n'est pas un terme, ce n'est pas une fin. C'est une glorification. La gloire, c'est la manifestation de quelque chose qui vient de l'artiste, mais la gloire ne finalise pas. Il ne peut pas finaliser. D'abord parce que ça vient des autres, et qu'on peut être glorifié aujourd'hui et demain être mis dans le puits. Ça dépend des autres. Donc ça ne donne pas une autonomie parfaite. Je reste dépendant de la communauté dans toute œuvre d'art. C'est le musicien comme il est dépendant de son auditoire. et le peintre aussi. Il a besoin quand même qu'il y ait certains regards des hommes par rapport à son œuvre, le poète aussi. Donc il n'y a pas une autonomie parfaite. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas son bien, c'est son œuvre. Ça lui permet d'être délivré d'un certain conditionnement humain, ça lui permet d'être délivré d'une situation limite du positivisme qui l'enfermerait complètement dans la matière, il y a une certaine émergence. Donc il y a une certaine manifestation de l'esprit. Mais ça ne va pas jusqu'au bout. L'œuvre d'art est une attente. C'est un cri, si vous voulez. C'est ce qu'on dira. On dira de temps en temps que l'œuvre d'art est un cri et que toute œuvre d'art est un cri. C'est vrai. On dira que toute œuvre d'art est quelque chose de prophétique. C'est vrai. C'est une attente vers quelque chose d'autre. Ce n'est pas quelque chose qui permet à l'homme de se stabiliser. L'œuvre d'art ne stabilise pas, donc ne donne pas la sécurité. La sécurité parfaite. Je ne peux pas m'appuyer sur mes œuvres. Le jour où l'artiste s'appuie sur ses œuvres, vous savez bien ce qu'il devient. C'est le signe du gagatisme artistique. Donc, il s'arrête et ce n'est pas une personne. Il y a quelque chose de limité dans l'œuvre. Et donc, l'artiste qui se repose... C'est très curieux, et ça, vous voyez, chez tous les artistes, c'est comme ça, et tous les hommes. Hein. Vous entrez chez un architecte, voilà ce que j'ai réalisé. Hein. Oui, ce que vous avez réalisé. Quelle date ? Ah, il y a 10 ans. Et depuis, rien. Il se repose sur ce qu'il a fait. Le jour où un artiste repose sur ce qu'il a fait, terminé. Parce que l'œuvre d'art est une attente. Tandis que le jour où il considère que l'œuvre d'art est une fin, et qu'il se repose là-dessus, eh bien c'est fini. Ça montre très bien, vous voyez, que l'œuvre d'art ne finalise pas. Et nous avons tous vu ça. Quand on est à plusieurs à entendre ça, on se retourne et puis on a compris, n'est-ce pas ? On est poli, on ne dit rien, mais on a compris. On a compris, c'est fini. Claudel dirait, j'ouvre le robinet, mais rien ne coule. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de tension. C'est la psalmodie des chanoines dans la cathédrale. Il n'y a pas beaucoup de tension. Et là, c'est les gouttes d'eau qui tombent jusqu'à la dernière. C'est une liturgie fatiguée. Et une liturgie fatiguée et fatigante. Parce qu'elle n'est plus, c'est une œuvre d'art, la liturgie. C'est une œuvre d'art qui est un cri vers Dieu. Un cri de gloire vers Dieu. Et lorsque je m'arrête à ça, c'est fini. On a tous compris, quelquefois, quand l'œuvre liturgique veut être une finalité, c'est fini. Que tous ceux qui chantent faux ne chantent pas parce que l'œuvre d'art serait moins bien réussie. Vous voyez ? Ça, c'est le signe. Ça veut dire que ça ne va pas. Parce qu'au fond, ça doit être un cri de toute une communauté qui crie vers Dieu. Donc l'œuvre liturgique ne finalise pas. Elle est un tremplin pour glorifier Dieu, pour aimer. C'est un tremplin. C'est la même chose, on trouverait les mêmes critères. Hein. Alors l'œuvre d'art ne donne pas une personne. L'œuvre liturgique ne fait pas que vous êtes une personne religieuse. Le jour où vous avez considéré que l'œuvre liturgique fait de vous une œuvre religieuse et que votre œuvre liturgique est parfaite, alors à ce moment-là, c'est fini. C'est le gagatisme religieux, vous voyez ? Et là, vous vous reposez sur une œuvre que vous avez réalisée, alors que l'œuvre doit toujours être un tremplin qui appelle vers autre chose. Donc, on arrive à ce résultat. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de saisir au point de vue philosophique. C'est que, c'est vrai, le travail et l'œuvre d'art sont la première émergence de l'esprit à l'égard de la matière. Dans un monde positiviste comme le nôtre, dans un monde matérialiste comme le nôtre, où la plupart des hommes travaillent comme des manœuvres, et comme des manœuvres qui accumulent les dossiers, qui accumulent les valises, sans du tout les assimiler, et donc qui fait qu'un travail reste au niveau positiviste. Le travail humain est la première émergence, le premier oxygène spirituel que je respire. Et l'œuvre d'art permet, la véritable œuvre d'art permet de montrer la naissance de l'esprit, le premier dévoilement de l'esprit. Et donc, ne me donne pas encore ce qu'est la personne, parce que je suis encore trop dépendant du milieu. Ça, c'est la limite de l'artiste. Il est trop dépendant du milieu. Et donc, il n'a pas une autonomie parfaite. Il n'a pas une sécurité parfaite. Et il n'a pas la valorisation au niveau parfait. Il reste à mi-côte, à mi-chemin. C'est l'émergence de l'esprit. C'est l'esprit qui commence à se manifester. Il n'est pas pleinement lui-même. Et donc, il reste trop dépendant. Il peut être anti-destin par rapport au positivisme, par rapport au conditionnement, mais il ne finalise pas. Alors, parce qu'il ne finalise pas, il ne permet pas à l'homme d'être pleinement personne, d'être une vraie personne. Il est une attente. Attente de quelque chose de plus. L'art ne permet pas de découvrir vraiment ce qu'est la personne humaine. Mais comme l'art manifeste et crie, ça fait toujours beaucoup de bruit. Et donc on est impressionné, toujours impressionné par la personnalité d'un artiste. C'est impressionnant. Et si vous restez trop longtemps, que l'impression du début disparaît, vous apercevez que vous n'avez pas affaire au sens strict à une personne humaine. C'est l'émergence, c'est quelque chose de très grand, de très manifeste, ça s'exprime, ça se dit, mais vous ne pouvez pas compter dessus. C'est momentané. Et c'est la fleur qui fleurit, mais qui ne fleurit qu'un jour. Ça peut durer un peu plus qu'un jour, mais ce n'est pas vraiment la personne humaine. Ça s'arrête à mi-chemin. Et je crois que philosophiquement, quand on regarde attentivement, on voit bien que ça s'arrête à mi-chemin. C'est merveilleux pour lutter contre le positivisme, c'est merveilleux pour découvrir, dévoiler l'esprit, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Dans la lumière de la personne humaine, hein, c'est-à-dire, je veux chercher ce que c'est que cette personne qui doit avoir, doit se découvrir comme, au point de vue de l'être, comme un certain absolu. La personne, c'est-à-dire l'homme artiste, n'apparaît pas comme un absolu. Il apparaît comme un absolu momentané. Il apparaît comme un cri vers quelque chose d'autre. Mais il n'apparaît pas comme un absolu. Il n'apparaît pas comme dominant pleinement le contexte dans lequel on est. Il n'apparaît pas comme valorisant pleinement l'homme. L'homme reste encore limité.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de